Affabulé.
C'est ça. Affabulé. Affabulé.
Deux F.
Wakarimasu yo-chan.
Sounds like they were very happy.
Yes, they were.
もうどれぐらいこの列車に乗っているのか忘れてしまった。
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur Transistor d'Étoile Plein Jeu, c'est votre magazine de cinéma cette semaine encore et on se penchera sur Leto, le film que sort Kirill Serebrennikov sur ce groupe de rock des années 80. Et puis ensuite en fin d'émission, bien sûr, on reviendra sur quelques conseils de sortie au cinéma pour cette semaine, mais donc tout de suite la toile c'est Leto, les yeux ce sont ceux d'Occitane, de Maï et de Félix, bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Виктор, очень приятно. Советский композитор.
Ребят, советский рок-музыкант должен занимать активную социальную позицию.
Мотор!
Будущее за чиником все пофиг.
Ты поешь вражеские песни.
Секс-пистол.
А ты поешь песни нашего идеологического фракита.
Этот Витя, который без денег, сказал, что за новой волной будущее.
Без денег теперь влияет на твои музыкальные предпочтения?
Alors, plutôt que de faire un résumé moi-même, je vous vois vous trémousser sur la musique. Alors, racontez-moi, qu'est-ce qui s'y passe dans ce
Leto.
Merci Maë pour cette intervention.
C'est un opéra rock, avant tout, à la manière, selon moi, des plus grands opéras rock qu'on a pu voir au cinéma... de type de Quadrophenia en passant par Tommy ou par mais qui sort dans les années 2010 finissantes, donc ce qui est étonnant aussi et ce qui apporte je pense une autre couleur à ce film, une autre texture même, sans parler de la texture des images mais aussi à son atmosphère en général. Donc oui, comme tu l'as dit, c'est l'histoire d'un groupe, mais c'est plus qu'un biopic, mais c'est l'histoire d'un groupe soviétique emmené par un certain Mike, donc qui s'appelle Zoopark, et qui essaye de se faire une place dans ce qu'ils appellent eux-mêmes un marais musical, et qui essaye en même temps de faire percer le groupe des débutants porté par Victor, et qui se finira par s'appeler Kino, et qui, en fait, sont comme des espèces tous de tigres en cage qui font des imitations, qui sont dans la perpétuelle imitation de ce qui se fait à l'Ouest, mais qui sont désespérés de ne pas réussir à... accéder à cette espèce d'Amérique, ou en tout cas d'Anglo-Amérique rêvée, qu'est le continent musical des années 80. Quoi.
À cause de la censure.
À t'écouter, ça t'a plu?
Ça m'a énormément plu.
Maë?
Moi, j'ai bien aimé aussi. Alors, je comprends pas la moitié des mots qu'utilise Occitane, désolée. Mais parce que, ne serait-ce parce que je ne connais pas le concept d'opéra rock. Enfin, disons que je le connais, mais j'ai aucune idée de à quoi ça devrait ressembler. Du coup, je suis plutôt néophyte sur la question. Bref, tout ça pour dire que ça m'a beaucoup plu. Ouais, c'est super chouette. D'un point de vue formel, je trouvais ça super intéressant. Déjà que ce soit en noir et blanc, et pourtant, quand c'est le passé ou quand c'est des mises en abîme de films, ça repasse en couleur. Ne serait-ce que ça, j'aimais bien. J'ai beaucoup aimé les mini-clips qui se jouent avec toujours ce panneau où cet acteur qui intervient en disant ceci n'a jamais existé. Ce personnage qui joue en fait le caractère cynique d'un autre personnage. Enfin bref, ce côté un peu déjanté en fait, assez rock and roll. C'était vraiment chouette, j'ai bien aimé la musique et j'ai bien aimé ce que ça disait aussi de cette période de cette URSS où finalement ils sont constamment sous la censure, tu vois un concert de rock où tout le monde est assis, bat désespérément la mesure avec les pieds mais en fait ils peuvent même pas se lever et danser, ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils veulent dans les chansons et ils rêvent tous d'exploser et de faire enfin un vrai concert de rock, mais voilà, on voit les membres des vigiles quoi qui rôdent dans la salle et qui observent si quelqu'un se trémousse un peu trop, si une parole dépasse, n'a pas de but pour la nation et pour montrer que la société, je sais pas, quelqu'un qui dit j'ai rien envie de faire de ma vie, ça suffit pas, il faut trouver une explication. Alors la seule explication qu'ils trouvent, c'est que c'est parodique. Et j'ai bien aimé. Après, le seul truc qui m'a peut-être... laissé un peu plus froide, c'était justement l'insertion dans toute cet univers d'un triangle amoureux entre Victor, la femme de... Je me rappelle plus de leur nom, enfin bref. Il y a un couple marié, il y a le nouveau musicien là qui arrive et qui dragouille la nana de l'autre. Et voilà, bon, il y a ce triangle amoureux qui dure pendant tout le film et c'est ça que j'ai un peu moins compris l'intérêt. Bon après ça se regardait. Hein. C'est voilà, un triangle amoureux.
Félix.
Moi aussi, comme toutes les deux, j'ai beaucoup apprécié le film. Alors que d'habitude, je suis plutôt réticent au biopic. C'est pas un genre qui me touche particulièrement. C'est souvent un genre que je peux trouver un peu ennuyeux dans la façon dont la vie est traitée.
De toute façon, c'est ce qu'on dit de tout biopic. J'aime pas les biopics, mais celui-là était bien.
Ça dépend. Non, mais ici, justement, l'aspect biopic passe peut-être au second plan. Déjà parce que le groupe dont il est le plus question, qui est donc Zoopark, le groupe de Mike, est un groupe assez peu connu en Russie, il me semble, contrairement au groupe dont on voit la formation, qui est le groupe Kino, qui lui est extrêmement connu. Donc déjà, on a ce côté où on nous montre un groupe qui n'existe pas encore, et où le groupe qu'on nous montre qui existe n'est pas... le groupe qu'on nous montre le plus à l'écran n'est pas celui qui est le plus connu, etc. Donc c'est un biopic qui n'est pas vraiment... qui n'est en fait de juste qui raconte la vie de personnes réelles, mais qu'il raconte pas l'histoire d'un groupe ou d'un groupe. Il raconte plutôt des interactions entre différents membres.
Et peut-être une époque aussi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le sujet du film, le vrai sujet du film, c'est, comme tu disais, Maya, une espèce de désir d'explosion, mais qui est sans cesse contrarié et qui fonctionne vraiment vase clos avec ce personnage du sceptique, enfin qui est nommé comme ça au générique, qui s'appelle le sceptique, et qui... propose perpétuellement des espèces de réalités alternatives où tout le monde, mais de manière générale, pète un câble sur des chansons souvent punk, par exemple des Talking Heads, etc. Et où même les gens dans les transports en commun vont se mettre à entonner la chanson dans une espèce de grande scène surréaliste de comédie musicale, en l'occurrence d'opéra rock. Et du coup... tout fonctionne sur cette espèce de mode de désir d'explosion. Au moment où Zoopark, justement, où Kino va accéder à une forme de succès, où on voit leur dernier concert au Club Rock, où les jeunes justement sont hyper là aussi dans un carcan, et ben au moment où on sent que le succès va peut-être venir, que là le groupe commence à prendre une dimension plus importante, et ben le film s'interrompt en fait à ce moment-là avec les dates des personnages principaux qui s'affichent à l'écran, et on comprend que on n'en saura pas plus et qu'on sait que de toute façon leur succès ne sera que très éphémère au vu du temps qu'il leur reste à vivre, ce qui donne une tonalité assez tragique, je trouve, au tout.
Alors une tonalité du film qui est peut-être soulignée par la forme, quand même assez particulière, tu l'évoquais, Maë. Ça prend quelle place tout ça dans la construction de la chose?
Ben, donc comme disait Maë, oui, il y a... C'est un noir et blanc, mais un noir et blanc qui est très...
Et au fond, vous répondez aussi. Hein.
oui, donc c'est un noir et blanc qui a une texture, comme je disais, très, très lisse et très peu contrastée. Donc du coup, qui donne aussi cette impression d'atmosphère qui est en perpétuelle, je dirais, gestation. Mais pas vraiment gestation, une espèce de platitude des choses où la seule chose qui un peu apporte du contraste et de la vie, ce serait justement Victor avec ses cheveux très noirs et son blouson très noir et qui se balade comme ça, comme une espèce de fantôme qui condenserait toutes les figures de Bolan, Bob Dylan, qui serait une espèce de... Voilà, de... Ouais, je saurais pas dire, de figure de rêve un peu mal condensée.
Les auditeurs entendent tes mains s'agiter sur la table en cherchant tes mots.
Et puis oui, comme disait Maë, il y a cette figure du réalisateur qu'on voit passer un peu par-ci par-là et qui filme en... je saurais pas dire le format, mais en couleur en tout cas, et qui apparaît de temps en temps sur fond d'écriture manuscrite, comme si c'était une espèce de fragment qui surgissait de cette époque-là. Et puis les fameux moments de folie collective où l'écran se part carrément d'écriture, d'aplats de couleurs qui viennent... renforcer ces moments d'euphorie, mais qui n'existent pas vraiment, comme nous le dit le personnage du sceptique.
Ouais, c'est ça, on a l'impression que le noir et blanc enferme les personnages comme la censure de l'Union soviétique finalement, et la couleur, c'est quand ils atteignent... c'est ce que tu viens de dire, mais... mais voilà, je le répète, parce que la pédagogie, c'est aussi ça, Rémi. Que dire de plus? Non, franchement, c'est la playlist est pas mal. Putain, Félix, notre
spécialiste. Mais attends, il faut relancer parce que la transition, on va la couper. Bon, alors on a parlé de l'image, mais c'est un film sur la musique. Alors parlons peut-être aussi un petit peu de la musique.
Alors la musique, je pense qu'on va...
Félix, tout le monde... notre spécialiste à Transistor.
Moi, j'attends un scratch sur les toits.
Alors voilà. Non, je pense que tout le monde, toutes les personnes qui l'ont vu seront d'accord pour dire que la musique est incroyable et toujours très bien gérée. Parce que justement, là où on pourrait s'attendre dans le genre... enfin, où on pourrait s'attendre justement à avoir des morceaux originaux, la bande sonore du film est beaucoup refaite, et les personnages qui chantent, etc. Et c'est toujours très bien amené, c'est toujours très bien interprété, et toujours super signifiant, en fait.
Et oui, c'est ça, et en plus, c'est intéressant, parce qu'à un moment, au moment où Mike a cette espèce d'urgence, exprime cette espèce d'urgence d'enregistrer Victor en disant « c'est pas ce qui peut lui arriver dans ce pays, les gens ils peuvent devenir alcooliques, partir à l'armée, enfin, ils disparaissent du jour au lendemain, donc enregistrons-le vite », Victor souffre beaucoup de la mauvaise qualité de l'enregistrement, du côté underground qui leur colle à la peau, parce que dès que c'est soviétique, c'est underground, machin, et... Dans la bande-son du film, c'est justement au contraire des enregistrements ultra propres, ultra soignés, comme si ça exorcisait un peu ce côté underground de cette époque-là pour lui redonner toute une qualité. Et même quand ça va être des scènes de chant collectif avec les gens qui chantent faux, des gens qui disent n'importe quoi, qui prononcent mal et tout, et bah, malgré tout, la qualité du son est parfaite et ça donne une espèce de texture que j'ai trouvé vraiment très jolie et très... qui rejoint ce côté un peu, cette ambiance générale du film assez, assez mélancolique d'un côté.
D'accord, donc mélancolique mais avec des explosions de joie, et c'est unanimement conseillé.
Oui.
Oui. Ah oui.
Oui, pour Noël, c'est parfait, ça c'est parfait. Donnera un peu de lumière.
Parfait.
On termine enfin, comme prévu, avec quelques conseils de sortie pour cette semaine. Et puis, on commence donc avec un film qui sort aujourd'hui, Mon Père, d'Alvaro Delgado Aparicio, qui se passe dans une région reculée du Pérou où Segundo, jeune garçon de 14 ans, se prépare à suivre les traces de son père dans l'art traditionnel du retable. Mais en se rendant à une fête de village, Segundo observe accidentellement son père dans une situation qui le bouleverse profondément. La découverte de ce secret inavouable lui révèle la réalité brute du monde dans lequel il grandit. Si ça, c'est pas un synopsis en béton.
Είμαι ένας κατμαναρίραν και τσιπάει ο Λιάμκα.
L'événement cette semaine, ça se passe au Comédia ce vendredi 21 décembre. Où Carlotta Films fêtera ses 20 ans, cette maison de distribution qui restaure et diffuse des films du patrimoine et qui œuvre à cela depuis donc désormais 20 ans. Carlotta qui organisera un pop-up store toute la journée au Comédia avec un certain nombre de DVD, de Blu-ray, d'affiches à vendre à des prix réduits et puis deux projections, Retour à World's End de James Ivory, version restaurée en 4K qui sera présentée donc à 14h et puis également à 20h30 l'héritage des 500 000 de Toshiro Mifune, une journée donc consacrée à Carlotta ce vendredi au Comédia. Et puis, pendant que j'y suis, je mentionne aussi dimanche Bohemian Rhapsody en séance spéciale karaoké au même Comédia. C'est forcément quelque chose qui vaut le coup d'être vécu une fois dans une vie. Du côté du patrimoine, ce jeudi 20 décembre, l'édition 2018 de Japonisme aura lieu en présence de Pascal-Alex Vincent, spécialiste du cinéma japonais, qui donnera une conférence à 19h, Gueule de samouraï, les grandes figures du film de sabre, et puis surtout à 20h30, la présentation et la projection de Yojimbo d'Akira Kurosawa, pardon, immense film où un samouraï solitaire, Sanjuro, arrive dans un village écartelé entre deux bandes rivales. Pendant que ces bandes s'entretuent pour régner en maître sur les lieux, les villageois terrorisés n'osent plus sortir. lorsque ce Sanjuro découvre la situation et décide de mener en bateau les deux clans rivaux en travaillant alternativement pour l'un et pour l'autre. Un immense film de samouraï à revoir donc ce jeudi 20 décembre à 20h30 et puis également la conférence à 19h.
Ah, 面白いもん見せてるか。
Enfin, pour terminer, le conseil de notre ami Flavien Ponce et des Cinémas Lumière qui nous livre donc une idée pour cette semaine.
Aujourd'hui, je vous conseille Wildlife, qui est le premier film de Paul Dano, qui était l'acteur qui jouait dans Little Miss Sunshine, dans There Will Be Blood. Donc c'est un film de comédien, c'est un premier film, je vous le disais. Et comme tout film de comédien, on peut craindre que ça fasse la part belle aux acteurs et que du coup ça minimise la part de la mise en scène. Et pourtant, c'est un film qui apporte un vrai soin à la mise en scène. C'est un film assez bouleversant à sa manière sur la séparation d'un couple dans l'Amérique des suburbs, des banlieues, dans les années 60. De ce point de vue-là, ça peut faire penser d'une certaine manière aux Noces rebelles de Sam Mendes avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Sur le papier, c'est semblable, mais dans le fond, c'est très différent. Le film, ne serait-ce que parce qu'il est porté par Carey Mulligan et Jake Gyllenhaal, c'est un film qui cultive justement la sensibilité, sans sensiblerie. C'est un film qui est très délicat, avec une vraie, un vrai soin de l'indépendance dans la mise en scène, ce qui fait que le film a d'ailleurs été salué par sa sélection à la semaine de la critique du Festival de Cannes. Donc je vous conseille Wildlife, qui est sorti le 19 décembre.
Ok, soldier. I'm coming out. Ok, soldier. I got no gun and... I'm coming out.
Vous écoutiez D'étoiles plein les yeux pour la 109e fois avec cette semaine Félix Barranci, Maë Burla, Occitane Lacurie, Rémi Cerda. On se retrouve bien sûr dès la semaine prochaine pour Les confins du monde de Guillaume Niclou. D'ici là, bon début de vacances et puis bonne semaine à toutes et à tous dans les salles obscures.
Calm down.